Radio Okapi. Le journal, présenté par Jean-Désiré Kadiama.
Au sommaire de ce journal, 27 000 Congolais ont été déplacés par les violences au 6 octobre dernier et ont besoin d'une aide d'urgence dans les provinces de Kwilu et du Mai-Ndombe. Déclaration de la représentante du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés en RDC hier mardi à Genève en Suisse. Angèle Dikongwe Atangana parle de plus de 142 personnes tuées et 2600 personnes qui ont cherché refuge en République du Congo. La Cour des comptes a déposé hier mardi au bureau de l'Assemblée nationale ici à Kinshasa son rapport sur l'exécution du budget 2021, ce qui ouvre désormais la voie à l'examen du budget de l'année 2023. Quel sens la jeune fille de Béni donne à la Journée internationale des jeunes filles et quels sont les efforts à fournir afin que la journée leur dédiée soit bénéfique pour toutes les filles? Nous recevons comme invité Stéphanie Mbafumoja, jeune fille leader communautaire en ville de Béni, au Nord Kivu. Mesdames, Messieurs, bonjour. En République démocratique du Congo, au 6 octobre, quelques 27 000 personnes, dont la plupart sont les femmes et des enfants, ont été déplacées par la violence et ont besoin d'une aide d'urgence dans les provinces de Kwilu et Mai-Ndombe. Par ailleurs, 2600 personnes ont cherché refuge en République du Congo après avoir traversé le fleuve en pirogue. Nombre d'entre elles ont été séparées des membres de leur famille pendant leur fuite. Les affrontements auraient commencé à cause des taxes coutumières sur l'utilisation de terres agricoles entre les communautés techniques. Plus de 142 personnes ont été tuées, dont certaines ont été décapitées, a déclaré hier mardi lors d'une conférence de presse régulière de l'ONU à Genève, Angèle Dikongwe Atangana, représentante du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés en RDC. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Face à ces violences, le gouvernement a négocié avec les dirigeants locaux et a déployé l'armée congolaise à Kwamout pour établir l'ordre. Cependant, la situation sécuritaire reste tendue, a ajouté Madame Dikongwe Atangana. De leur côté, les gouvernements provinciaux de Mai-Ndombe et de Kwilu ont établi un comité de coordination de crise et un plan multisectoriel au niveau du gouvernement pour répondre aux besoins. Sur le terrain, de nombreuses familles qui vivaient à Kwamout et dans les villages environnants ont quitté la région alors que le conflit s'étendaient rapidement. Elles ont marché pendant des jours avant de trouver refuge à Bandundu, la capitale de la province du Kwilu, à 245 km de la ville de Kwamout. La ville de Kwamout et plusieurs villages environnants sont désormais partiellement abandonnés, a détaillé Madame Dikongwe Atangana. Sur place, les fortes pluies ont rendu plus difficile la mise en sécurité des civils et plusieurs routes clés sont devenues impraticables pour les véhicules humanitaires apportant une aide vitale. Les familles restent traumatisées par les affrontements soudains et violents qui ont éclaté ces dernières semaines, a fait savoir la représentante du HCR.
Par ailleurs, le cardinal Fridolin Ambongo a foulé hier mardi pour la toute première fois le sol de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Selon le prélat catholique, c'est une visite pastorale qui rentre dans un contexte particulier, celui de rencontrer les peuples qui souffrent à la suite des tensions entre communautés, particulièrement dans les territoires de Kwamout, au Mai-Ndombe. Le cardinal Fridolin Ambongo entend découvrir les vraies causes de cette tension et en trouver des solutions. Des détails avec Irène Boma.
C'est avec faste que le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a été accueilli l'avant-midi de ce mardi par la population de la ville de Bandundu, principalement les autorités politico-administratives, les chrétiens catholiques, les élèves des écoles catholiques et autres habitants. Dès son atterrissage à l'aéroport national de Bandundu, ce pasteur a fait savoir à la presse qu'il est venu pour rencontrer ses brebis qui souffrent.
Ce qui m'amène ici, c'est d'abord le souci pastoral. Étant donné le contexte particulier de tensions communautaires, il est un devoir pour le pasteur d'aller vers ces brebis qui souffrent pour essayer de comprendre pourquoi il y a des tensions. Et après avoir écouté, cherché la cause, voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer notre vivre ensemble, sans qu'il y ait toujours des tensions.
Juste après l'aéroport, le cortège du prélat catholique a sillonné quelques artères principales de la ville de Bandundu qui ont été rempli de foules nombreuses venues pour voir pour la toute première fois un cardinal et chanter à son honneur. Il faut noter que son agenda à Bandundu prévoit aussi une messe qui sera dite mercredi 12 octobre 2022 par lui-même à la paroisse Saint-Hippolyte. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, plus de 300 personnes, la majorité des jeunes, ont été interpellées, dont 112 arrêtés. C'est le résultat de l'opération du bouclage menée par la police lundi dernier au quartier Mombélé, dans la commune de Limété. C'est le bourgmestre de cette municipalité qui donne ce bilan. Cette opération vise à traquer tous les gangsters communément appelés Kuluna qui sèment l'insécurité dans la capitale. Il appelle cependant la population, notamment celle de sa juridiction, à collaborer avec les services de sécurité tout en dénonçant les lieux où se cachent ces Kuluna. Douglas Koulou a été joint par Grâce Hamzati.
Nous avions des personnes déjà ciblées. Plus de 300 personnes ont été interpellées. C'est à la suite pratiquement d'une consultation populaire, mais aussi sur base aussi des informations préalables qui étaient à la disposition de la police. On a dû relaxer d'autres et garder simplement les personnes qui étaient fichées, qui ont été déférées auprès du commissariat provincial de la police. 112 arrêtés, plus de 300 interpellés. La situation, en tout cas avant les bouclages, était préoccupante parce que il était difficile, la nuit tombée, de pouvoir se déplacer calmement sur l'avenue Lumumba, notamment à tous les coins. Il y avait des petits, permettez-moi l'expression, délinquants qui tendaient des pièges aux paisibles citoyens. Donc cette opération, qui n'est pas terminée, était une façon, une réponse appropriée à une situation sécuritaire qui était devenue préoccupante à Mombélé. Vous savez les images qui ont circulé, où ces mêmes jeunes défiaient même un élément de la police armée.
Notez qu'il y a peu, la même opération était menée dans la commune de Lingwala. Nord Kivu, recrudescence d'insécurité dans la ville de Goma. Le conseil communal de la jeunesse de la commune de Goma dit avoir enregistré au moins une dizaine de cas d'assassinats ciblés, rien que pour cette commune, de janvier à octobre 2022. Selon le président de cette structure, les victimes sont pour la plupart des changeurs de monnaie assassinés par des personnes non identifiées dont les mobiles sont divers et parfois aussi inconnus. Les quartiers Mapendo, Imbi, Kieshero et Lac Vert sont les plus touchés. Jules Ngeleza déplore le fait que, pour la plupart de ces cas, les auteurs ne sont pas retracés par les services de sécurité. Le président du conseil de la jeunesse de la commune de Goma demande aux autorités urbaines de redéfinir des nouvelles stratégies s'apparentant au mode opératoire de ces hors-la-loi. Il est au micro de Denise Lukesso.
En tout, nous avons identifié 10 cas parmi lesquels 3 femmes et 7 hommes dont l'âge varie entre 25 et 40 ans. Et la plupart de ceux qui étaient plus ciblés sont de changeurs de monnaie, fusillés par des hommes porteurs d'armes à feu qui restent dans les vocables non autrement identifiés et opérant souvent à bord des engins roulants et qui prennent la destination inconnue, et cela pendant les heures vespérales. Tous ces cas sont parmi ceux-là qui sont en train de retracer un tableau sombre sur le plan sécuritaire dans la commune. Voilà pourquoi nous lançons un appel aux autorités en place de redéfinir des nouvelles stratégies qui s'apparenteraient à ces modus operandi de ces hors-la-loi en vue de protéger des populations civiles et leurs biens. Et cela conformément à l'article 52 de la loi fondamentale qui stipule que les autorités ont cette obligation d'assurer la sécurité de leurs administrés.
Contacté, le commandant urbain de la police a déclaré par contre que les cas de criminalité ont sensiblement diminué par rapport aux années antérieures. Le colonel Job Alissa parle d'au moins 30 criminels sanguinaires arrêtés avec des armes à feu durant cette même période et dont les dossiers de 15 parmi eux sont fixés devant les cours et tribunaux. La Cour des comptes a déposé hier mardi au bureau de l'Assemblée nationale son rapport sur l'exécution du budget 2021. Désormais, plus rien ne bloque l'examen de la loi portant reddition des comptes de l'exercice clos et du projet du budget 2023. L'examen de ce rapport de la Cour des comptes est un préalable obligatoire pour l'examen du budget 2023. Explication avec Michel Kifindangoy.
Alors que l'opinion s'est demandé déjà pourquoi le projet de loi portant reddition des comptes 2021 et celui du budget 2023 ne sont toujours pas soumis à l'examen, la Cour des comptes a enfin déposé son rapport. C'est en fait ce qui bloquait l'examen du budget, explique Guy Chipata, représentant du premier président de la Cour des comptes.
La session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire. Sans le rapport de la Cour des comptes, la machine sera bloquée. Pour qu'on examine les projets de loi pour l'exercice 2023, il faut d'abord que le projet de loi sur la reddition des comptes soit adopté par l'Assemblée nationale. Et pour que ce projet soit adopté, il faut qu'au préalable, la Cour fasse son rapport.
En effet, la Cour des comptes joue un rôle important dans l'accompagnement du Parlement en ce qui concerne le contrôle budgétaire, explique Guy Tshipata.
La Cour soumet à l'Assemblée nationale les rapports contenant les observations de la loi des finances de l'exercice clos. La Cour fait son travail en toute indépendance.
Avec le dépôt de ces rapports, l'Assemblée nationale peut donc désormais soumettre à l'examen le projet de loi de reddition des comptes 2021 et du budget 2023.
Pénurie du maïs à Kananga. Le comité d'acheteurs et évacuateurs des produits agricoles, CEPA, assure qu'Inram des 14 wagons a acheminé 560 tonnes de maïs sur la ville pour faire baisser la spéculation. Déjà le week-end, suite à la rareté de cette denrée, la mesurette s'est vendue jusqu'à 12 000 francs congolais. Selon le président de CEPA, la situation va se stabiliser avec les quantités de maïs qui arrivent après la réouverture de la voie ferrée parce que d'autres stocks sont à Mouika. Georges Mukenge l'a dit à François Kadima.
Donc nous pensons les 14 ans, ce qui fait 560, ça va directement entrer dans le marché. Mais en termes aussi d'un ravitaillement rapide, ce que nous pouvons recommander, c'est ce qu'on ne laisse pas ces 560 tonnes s'épuiser et puis ramener d'autres. Parce que nous, déjà dans le garage, donc dans l'interland de Mouika, on dispose déjà dans le garage. Il y a même déjà des wagons déjà chargés, quand vous allez à Beneleka, à Kakenye même, et à Mouika, nous avons déjà deux wagons déjà chargés. La difficulté est là pour cette période. Nous avons dit que pendant cette période, il n'y a pas que la ville de Kananga. Il y a l'interland de la ville de Kananga. Tous ces villages environnants se ravitaillent à partir de la ville de Kananga. Et même le coin le plus proche des territoires qui touche la ville se ravitaille à partir de la ville de Kananga.
Le prochain sommet Amérique-Afrique aura lieu au mois de décembre prochain à Washington sur demande du président Joe Biden. Dans la suite de la série de reportages Radio Okapi à ce sujet, nous parlons aujourd'hui des attentes des pays africains, dont la RDC. Des attentes qui sont nombreuses et de plusieurs ordres. Elles sont sécuritaires, sanitaires, économiques et politiques. Des détails avec Daniel Tambizoni.
Le président Joe Biden, qui reprend cette coopération aujourd'hui avec l'Afrique, le sait très bien, lui qui était en 2014 vice-président de Barack Obama lors du premier sommet. L'intérêt pour les États-Unis d'Amérique, c'est exploiter l'Afrique considérée comme une terre d'opportunités avec des défis qui restent à surmonter. L'Afrique, dont 6 économies, sont parmi les plus dynamiques au monde. Et pour l'Afrique, augmenter le volume des échanges commerciaux et attirer encore plus d'investissements américains dans divers secteurs, dont la sécurité, la santé et l'économie. Les États-Unis ont manifesté leur intérêt pour les minerais de la RDC, surtout ceux qui rentrent dans la fabrication des batteries électriques et d'autres opportunités énergétiques. À 2 mois de la tenue de ce grand rendez-vous, la préparation semble battre de l'aile en RDC. Des sources de la présidence nous ont confirmé la participation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au gouvernement et dans les ministères sectoriels comme au commerce extérieur, au ministère des petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat. Rien ne bouge encore, on dit attendre le du Premier ministre avant que les ministères sectoriels ne prennent action, nous a-t-on dit. À la Fédération des entreprises du Congo aussi, notre source nous dit qu'aucune action n'est encore prise.
Au Maniema, le ministre provincial de la Santé a assumé l'intérim du gouverneur intérimaire en mission, a lancé hier mardi à partir du marché central de Kindu la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Selon Kibungi Mutanga Junior, cette campagne de 7 jours concerne tous les 300 sites de vaccination qui sont installés dans les 18 zones de santé de la province du Maniema. Un appel vibrant a été lancé à tous les concernés en vue de consulter chacun le site le plus proche pour se faire vacciner, car jusqu'à ce jour, la province du Maniema compte 450 cas confirmés de Covid-19. Florence Kiza Alunga.
Selon le coordonnateur Peuve Maniema, cette deuxième phase de campagne de vaccination contre Covid-19 a des notions à observer. C'est notamment celle d'interchangeabilité ainsi que celle de la dose booster. Dr John Kaozi explique.
Les personnes qui avaient reçu les vaccins qui étaient destinés à une dose telle que Johnson & Johnson, comme il y a déjà 6 mois d'intervalle depuis que la première dose a été administrée au mois de mars, c'est que ces personnes-là peuvent encore recevoir leur deuxième dose juste pour booster l'immunité. Mais pour ce qui concerne l'interchangeabilité, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu par exemple le Moderna au premier passage et il se retrouve que dans les sites il n'y a pas de Moderna qu'il a reçu au premier passage, il a la possibilité de recevoir Johnson & Johnson comme solution de rechange à ces vaccins qui n'existent pas au niveau des sites.
L'autorité provinciale fait savoir que c'est avec peine que la province du Maniema a atteint 12% des personnes vaccinées. Kibungi Mutanga Junior.
Par rapport à la première phase, la province a atteint difficilement 12%. Et nous espérons que cette fois-ci, nous serons au-delà des 12%. L'idéal, c'est d'aller au-delà même des 30%.
Les partenaires se disent déterminés à accompagner la province dans cette lutte. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a réuni hier mardi les partis politiques. C'est afin de les informer sur ses activités, notamment la révision des listes électorales qui aura lieu du 19 novembre au 10 décembre 2022. Il s'agit d'une activité régulière qui se passe chaque année, mais à un an des élections locales d'octobre 2023 en Côte d'Ivoire, elle prend une tournure plus importante. Et puis les bombardements russes en Ukraine étaient au menu des discussions du G7, réuni en urgence en visioconférence hier mardi. Le président ukrainien a demandé une mission d'observation à la frontière biélorusse. Volodymyr Zelensky a appelé les membres du G7 à aider à créer un bouclier aérien au-dessus de son pays pour les protéger des frappes russes.
L'invité.
Quel sens la jeune fille de Beni donne à la journée internationale de la jeune fille et quels sont les efforts à fournir afin que la journée leur dédiée soit bénéfique pour toutes les jeunes filles? Nous recevons comme invité Stéphanie Mbafoumoja, jeune fille leader communautaire en ville de Beni. Elle s'entretient avec Marc Marofimbo.
Stéphanie Mafouja, bonjour.
Bonjour, messieurs.
11 octobre, c'est la journée dédiée à la fille. Pour vous, personnellement, la fille de Beni, est-ce que cette journée est-elle à sa place pour elle et comment elle l'aperçoit?
Je pense que cette journée pour la fille de Beni, elle n'est pas vraiment marquée, mais elle est très importante. Elle est très importante, pourquoi? Parce que ça rappelle sa valeur, sa place, la place que la société l'accorde dans la vie quotidienne. Mais la fille de Beni, c'est une fille qui est traumatisée par la guerre, qui a subi beaucoup de formes de violences sexuelles et basées sur les genres. Mais malgré tout ça, elle tient debout, elle s'élève, elle milite pour le respect de ses droits, elle s'est créée une place dans la société. C'est la fille qui, tant soit peu, trouve un peu d'argent pour subvenir à ses besoins, pour aller à l'école. La fille de Beni, c'est une fille autonome qui croit en elle-même et qui milite pour son avenir meilleur. J'appelle surtout notre gouvernement à se pencher plus sur la situation que traverse la fille de Beni, parce que si on améliorait sa condition de vie, la fille de Beni pourrait être une fille modèle qui sera une référence dans tous les pays, même au niveau international, si et seulement si le gouvernement mettait un accent particulier sur la jeune fille de Beni. Vous pouvez voir, malgré toutes ces turbulences que nous connaissons ici chez nous, mais il y a quand même des filles qui sont des références et qui, tant soit peu, aident aussi les autres à être des figures modèles dans la communauté.
Vous venez de soulever tout un bagage de problèmes et d'obstacles que traverse la fille de Beni, mais est-ce qu'à son propre niveau, il y a des efforts qu'elle fournit pour s'en sortir?
Si, si, il y a plusieurs efforts que la fille de Beni fournit pour qu'elle trouve sa place dans la communauté, notamment le petit commerce, des activités manuelles, genre la couture, les tressages. Il y a pas mal d'activités que la jeune fille de Beni fait pour qu'elle soit un peu autonome. Il y a aussi d'autres qui ont un peu étudié. Il y a aussi celles qui n'ont pas étudié, qui font des activités, qui leur donnent un peu de la valeur. Et ceux qui ont eu la chance, elles sont en train de bien défendre l'image de la fille de Beni. Et cela nous réjouit, nous fait voir que malgré tout ça, la fille, pas seulement celle de Beni, c'est une personne qui est forte naturellement. Il suffit juste d'ajouter un peu une dose d'accompagnement pour que le monde entier puisse avoir une couleur qui sera un soulagement à toutes les difficultés que connaissent le monde par-ci, par-là. La fille naturellement, c'est une personne forte qui croit en elle-même, qui a deux capacités qu'il faut seulement promouvoir. C'est pourquoi j'appelle notre gouvernement à mettre l'accent particulier sur la situation que traverse la jeune fille partout au monde. L'accès à l'éducation, la lutte contre toute forme de discrimination dont les jeunes filles sont victimes. J'appelle aussi les femmes, toutes personnes, même les hommes, à accorder à la fille sa place qu'elle mérite, à arrêter toute forme de discrimination, dont la jeune fille est victime. Aussi aux parents qui continuent à forcer les jeunes filles au mariage à arrêter ce genre de pratiques. Ce sont des effractions qui sont punies par la loi. La jeune fille a besoin de l'éducation. La jeune fille a besoin de l'égalité des chances. La jeune fille a besoin d'un environnement sain pour qu'elle puisse bien s'épanouir.
Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Vous venez de dire qu'il y a déjà des efforts qui sont fournis par cette fille. Mais vous pensez, dans les jours à venir, comment on peut donner assez de valeur pour que cette journée soit bénéfique pour la fille de Béni?
Personnellement, ça, je parle à mon nom. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'accorde une roue pour cultiver. Je dis à maman, je peux faire déjà quelque chose. Et c'est ce que je fais. J'ai juste besoin de soutien. J'ai juste besoin des encouragements. J'ai juste besoin des gens qui m'accompagnent, qui croient en moi. Vous savez, les encouragements aussi, ça aide quelqu'un à évoluer. La fille de Béni a besoin de ça. La fille de Béni a besoin qu'on puisse venir à côté d'elle, qu'on la dise, madame, courage, vous allez y arriver. Madame, vous êtes forte. Madame, vous y parviendrez. Madame, nous comptons sur vous. Ne lâchez pas. C'est ça que la jeune fille de Béni a besoin. Et prochainement, dans 10 ans, c'est trop, dans les 5 ans à venir, la jeune fille de Béni, si seulement si la situation sécuritaire s'améliorait, la jeune fille de Béni, c'est une jeune fille qui va s'épanouir.
Stéphanie Mafmojano, vous disons merci.
Fin de ce journal. Merci de continuer à l'écouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.